Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 27 avril 2024 et comme toutes les semaines, nous allons faire le point sur ce qui s'est passé en Suisse et dans le monde à notre connaissance, comme disait l'autre. On va un petit peu faire le tour de toutes les choses qui se sont passées parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc je vais essayer d'aller plus vite que d'habitude pour essayer de tenir tout ça en à peu près 25-30 minutes parce qu'il y avait vraiment une montagne de trucs, une montagne d'événements cette semaine. Alors je vous avoue qu'en termes de performance, on n'est pas plus avancé qu'avant parce qu'il s'est quasiment pas passé grand-chose in fine sur les indices globaux, sauf sur le semi-conducteur, mais comme chaque semaine, c'est un peu le Muppet Show sur cet indice, eh bien, tout est possible. Donc, petit point de situation générale et on commence tout de suite. La première chose qu'il faut retenir, on va commencer par l'aspect macro des choses. Oui, parce que l'aspect géopolitique, on n'en parle plus, puisque de toute façon, c'est réglé, il n'y a plus de tension nulle part dans le monde, tout le monde est paix et amour, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problème, tous les politiciens sont extraordinaires et tous les pays fonctionnent parfaitement bien au niveau politique et géopolitique, donc on ne s'occupe plus de ça pour l'instant. En revanche, du côté de la macroéconomie, bien sûr, on a eu beaucoup de choses. On a eu tout d'abord les PMIs qui montraient que la croissance des pays était pas mal, que ça marchait bien, que c'était trop cool. Alors, ça va vraiment pas dans une direction de baisse des taux, en tout cas au niveau du PMI. Alors, évidemment, la baisse des taux, c'est quelque chose qu'on a oublié depuis bien longtemps, puisqu'on sait depuis 10 jours que, de toute façon, ça se passera peut-être, probablement, un jour, mais plutôt... Allez, dans la partie de la fin de l'année, par contre on ne sait pas si ce sera la fin de l'année 2024 ou la fin de l'année 2025. Ensuite, on a eu le PIB américain. Alors le PIB américain, eh bien c'est encore pire, c'est encore un peu plus un espèce de mix-up dans nos têtes, puisque tout d'un coup les PMI nous disent que ça va bien, mais le PIB nous dit que ça ralentit un petit peu quand même. Alors ça fait un peu peur, on se dit « Ah tiens, tout d'un coup il y aurait un ralentissement économique aux États-Unis qui se dessinerait, pour la première fois on a un PIB aussi bas ». Bon, on sait très bien que ce genre de chiffres, ça vaut ce que ça vaut, on les interprète comme on a envie de les interpréter, et puis toujours cet optimisme permanent où tout le monde voit quand même qu'à l'intérieur, il y a quand même des gens qui achètent beaucoup, donc l'un dans l'autre, si on prend tous les chiffres qui sont fournis avec le PIB, eh bien, il y a deux, trois trucs qui montrent que la consommation reste forte, donc il y a une certaine confiance de ce côté-là. Mais si la confiance, elle est là, ça veut dire que la baisse des taux, là aussi, calendrier grec, on s'en occupe même plus. Et puis la troisième chose qui est sortie au niveau de la macro cette semaine, eh bien, c'était bien sûr le PCE qui est sorti vendredi. Grosso modo, sans trop rentrer dans les détails, légèrement plus fort que les attentes. Dans les attentes, selon les chiffres qu'on avait, on s'est toujours assez élastique. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation, elle est toujours relativement forte et plutôt en direction du haut qu'en direction du bas. Donc là aussi, il faut se mettre dans l'aspect que les taux, pour l'instant, la baisse des taux, c'est absolument pas la préoccupation principale du marché, parce qu'on a complètement mis ça de côté, mais c'est vrai que les chiffres nous montrent que pour l'instant, la baisse des taux, c'est vraiment pas la priorité du moment, puisque finalement, cette semaine, si on réfléchit bien, la priorité du moment, c'était les résultats trimestriels, et c'est eux qui principalement nous ont fait bouger. Mais c'est assez important de signaler qu'en fin de semaine, l'un dans l'autre, quand vous regardez les comportements qui ont été liés à la macro, on met beaucoup moins d'importance sur la qualité des chiffres macro. On peut en tirer des conclusions dans tous les sens, je le disais dans un des Morning Bull Live l'autre jour, on s'approche d'une certaine stagflation, hein. Une croissance molle avec une inflation qui continue à monter, c'est pas terrible. Alors on n'est pas encore en stagflation, mais il y a deux, trois choses qui pointent dans cette direction. Mais malgré tout, on est relativement rassuré parce qu'on voit quand même que à l'intérieur de tout ça, eh bien, on a une croissance de certaines sociétés qui continuent à bien nous tenir. D'ailleurs, quand on voit le graphique qui s'affiche à l'instant, eh bien, c'est la croissance des earnings à l'intérieur du S&P 500. Et vous voyez que finalement, si on prend les Magnificent Seven, eux, ils ont une croissance des earnings. Par contre, si vous prenez la colonne de droite, eh bien, vous verrez qu'il n'y a pas de earnings et c'est plutôt négatif. Et ça, c'est le reste du S&P 500. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde comme ça très vite à la louche, eh bien, ça laisse supposer que le S&P 500 est drivé par les Magnificent Seven. Bah, quand on voit la taille, ils représentent quand même à eux tout seuls pas loin de 25 ou 30% de l'indice. Mais il n'y a que eux qui ont vraiment une vraie croissance des earnings et le reste, c'est quand même vachement compliqué. Donc pour l'instant, c'est eux qui tiennent le marché et c'est eux qui nous sauvent. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont été la concentration, l'axe principal de notre semaine, et puisqu'on a eu les résultats de Tesla, les résultats de Meta, et les résultats de Microsoft et les résultats de Google. Alors, si on doit faire un tri au milieu de tout ça, ça va être super simple. Tesla, c'était pas bon du tout, mais vu que Monsieur Musk a réussi à nous vendre ça plutôt bien packagé, le titre a rebondi. Meta, c'était nettement au-dessus des attentes, mais comme Zuckerberg n'a pas réussi à nous vendre ses intentions d'investissement futur, ça n'a pas plu du tout, le titre s'est fait déglinguer. Microsoft, les chiffres étaient parfaits, exceptionnels, donc ça a soutenu l'indice, si on se dit qu'il y a au moins une boîte qui fonctionne très bien dans ce monde merveilleux. Et le dernier, eh bien, c'est Google qui a pris tout le monde à contre-pied avec sa triple stratégie. Résultat meilleur que les attentes, nouveau dividende, ce qui n'était jamais arrivé chez Google. Et pour terminer, au top de tout ça, eh bien, un share buyback, un rachat d'actions de 70 milliards de dollars. En annonçant au passage qu'ils ont quand même 108 milliards de cash sur le compte. Donc quand vous avez dépensé 70 milliards pour un rachat d'actions et qu'il vous en reste encore largement pas loin de 40, ça va plutôt pas mal. Donc, Google et Microsoft, on peut dire, nous ont sauvé la semaine. Meta nous a fait nous poser pas mal de questions. Mais ce qui est assez intéressant, l'un dans l'autre, c'est quand même, vous regardez sur les deux premiers qu'on publiait, Tesla et Meta, l'un a sorti des résultats pourris au niveau des voitures électriques, mais en nous promettant que ça ira mieux demain, avec des promesses sur des sujets qui sont les mêmes depuis 5 ans, mais qui sont jamais arrivés sur le marché. Et le titre a explosé parce qu'on était rassurés, parce qu'ils allaient sortir une voiture bon marché. Sortir une voiture bon marché chez Tesla, super. Je ne sais pas si vous avez déjà roulé avec des voitures bon marché électriques. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, de l'autre côté, vous avez Meta qui a sorti des résultats impressionnants. Mais les investissements futurs dans le domaine de l'intelligence et du métaverse n'ont pas du tout plu aux investisseurs qui préféraient quand même garder l'argent pour eux. Résultat, le titre s'est fait déglinguer. C'est peut-être, on peut le comprendre, mais quelque part, on a un peu l'impression que on est toujours en train de remettre en question les envies ou les décisions de Mark Zuckerberg. Mais si on regarde un peu celle qu'il a prise jusqu'à maintenant, il a plutôt été juste par rapport à ce qu'on lui a reproché à l'époque. Ça, faudra peut-être jamais l'oublier. Et puis, autre petite news économique qui est passée en entrefilet cette semaine, on va quand même parler un peu de la Suisse, eh bien, c'est quand même que l'indicateur UBS CFA nous dit que les analystes et les économistes sont extrêmement positifs pour le reste de l'année en Suisse. Bon, quand on voit comment ils ont été super bien visionnaires au niveau des PIB, au niveau des chiffres de l'emploi, etc., etc., on peut quand même se poser des questions sur est-ce que leur avis a réellement autant d'importance et compte tant que ça. Mais néanmoins, il faudra quand même le garder dans nos têtes. Sur les performances de la semaine, alors vous le voyez très clairement, comme je vous le disais en introduction, eh bien, le semi-conducteur index est la vedette de la semaine avec 9,95%. On a assisté à un rebond assez spectaculaire en fin de semaine dû aux bons chiffres. On a eu la semaine dernière surtout une semaine extrêmement décevante, et ce qui fait que tout d'un coup il y a eu un rattrapage. Explosion au niveau du Hang Seng, du Nasdaq, tout ça pour la thématique de la technologie. Explosion également en Espagne, en Angleterre, très bonne semaine. Le S&P 500 termine quand même en hausse de 2,67%. Le DAX de 2,42%. Bref, c'était plutôt une bonne semaine. On sent que c'est un petit peu moins dynamique dans les régions européennes, même si les chiffres n'étaient pas forcément moins bons ou meilleurs en Europe. Enfin voilà, c'était un petit peu... on a beaucoup suivi les Américains cette semaine, mais il y a quand même eu des chiffres en Europe qui étaient relativement rassurants, plutôt pas mal. Et puis, on a toujours ce sentiment global que l'Europe s'en sort mieux au niveau gestion de l'inflation que les États-Unis. Et ça, c'est une grande question à laquelle on va pouvoir reprendre ces prochains temps. Le pétrole reste tranquille avec une hausse de 0,6% sur la semaine. Le SMI ne fout pas grand-chose. Bon, on reviendra sur les publications de cette semaine qui forcément n'aidaient pas le SMI à cartonner par rapport au reste. Repli sur l'or parce que on n'a plus besoin de valeur refuge puisque tout va bien. Et puis le Bitcoin qui pour l'instant est toujours prévu au décollage, mais on ne sait pas à quel moment il va vraiment décoller. Sur le SMI, le Nvidia local, c'est-à-dire l'Onza qui monte toutes les semaines, est en hausse encore une fois de 5% et termine en tête du classement. Novartis qui suit derrière grâce à ces bons chiffres qui ont été publiés cette semaine. Et puis pour le reste, on notera Nestlé qui a pas forcément emballer les gens au niveau de leurs chiffres, on y reviendra. UBS qui a eu son assemblée générale, mais qui se montre inquiète au niveau des régulations, on y reviendra aussi. Et puis Swisscom qui se sont pris une amende et qui paissait aussi 2,6%. Rush qui a sorti des chiffres qui n'ont pas fait plaisir, mais non, l'autre, les chiffres et les nouvelles annonces sur certains de leurs médicaments, ils arrivent à finir au milieu de nulle part, un peu à l'image de ce que fait le titre depuis pas mal de semaines. Sur le point technique, on commence donc avec notre marché suisse qui est toujours dans cette tendance haussière, si on veut bien essayer de la tirer comme ça. Grosso modo, on se bat toujours, si on zoome un peu dessus, on se bat toujours avec notre moyenne mobile des 200 jours ici. Pour l'instant, tant qu'on tient, eh bien, on peut prier et mettre des cierges et ça a l'air de continuer dans la bonne direction. Si on regarde tout simplement au niveau de la tendance à l'heure actuelle, eh bien, on voit qu'on est toujours dans notre espèce de tendance haussière, hein, bien évidemment. Voilà, il va falloir que quelque chose se passe, mais pour l'instant, encore une fois, et comme je le dis et je le répète depuis pas mal de temps, eh bien, ça va être difficile de faire bouger le marché tant que Roche, Novartis et Nestlé ne se réveillent pas. Vous voyez qu'on fait beaucoup d'hésitations, qu'on laisse beaucoup de gaps dans tous les sens ici sur le SMI. Bon, l'avantage, c'est qu'on les comble à chaque fois. Mais l'un dans l'autre, le gros support à surveiller, c'est les 11 229, comme vous le voyez ici, qui correspondent à la moyenne mobile des 200 jours. Tant qu'on reste en dessus, pour l'instant, tout va bien et on est plutôt confiant, mais en même temps, ça manque un tout petit peu de dynamisme. Le CAC 40, toujours un peu la même chose. Hein, le CAC 40, si vous regardez ce qu'il fait ces derniers temps, eh bien, on est dans nos tendances haussières qu'on a ici toujours. Là aussi, pour moi, j'arrive pas à trouver autre chose qu'une tendance qui monte. Et puis, on a nos anciens supports qui tiennent toujours sur la zone des 7900 et qui, pour l'instant, nous permettent de rester à relativement haute altitude. Et comme je le disais, les marchés européens bénéficient encore aujourd'hui d'un certain soutien, puisqu'on a l'impression que l'inflation est mieux maîtrisée en Europe qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et résultat, on est toujours optimiste pour voir une baisse des taux au mois de juin en Europe, alors qu'aux États-Unis, cette même baisse des taux s'éloigne de plus en plus. Le DAX est au milieu de nulle part pour l'instant. On hésite toujours. Là, un peu à l'image de la France, hein. On est en train de se balader sur nos moyennes mobiles des 50 jours. J'ai envie de dire que pour l'instant, c'est ça qui soutient l'indice. Les chiffres qu'on voit arriver en Europe sont relativement bons, mais on voit encore pas mal de volatilité et pas mal d'indécision, toujours bien dirigé par les mouvements des marchés américains. Le DAX a réagi exactement comme le S&P 500 durant toute la semaine. On a vu aussi que notre indicateur RSI est bien revenu en bas et nous permet d'espérer peut-être un rebond encore une fois sur le DAX. Et là aussi, je vous dis, la confiance et l'envie finalement a l'air d'être un peu plus du côté de l'Europe que du côté des États-Unis. Les États-Unis, justement, alors eux, par contre, donc ça reste relativement violent. Hein. Depuis une semaine, on a quand même cassé des niveaux importants sur la moyenne mobile des 50 jours. On est sorti de notre tendance haussière sur le S&P 500. Il y a une ancienne résistance qui se situe sur les 4750, 4800, qui correspond à l'ancien plus haut historique du S&P 500, qui fait office de gros support derrière. Alors, on n'y est pas encore. Mais pour l'instant, il va falloir essayer de remonter bien haut pour retrouver une certaine confiance. On voit que les moyennes mobiles hésitent hein, pour l'instant sur l'indice, que le RSI reste relativement bas aussi. Donc c'est plutôt encourageant. Et effectivement, avec les grosses publications de la semaine dernière, on s'est un petit peu rassuré sur les marchés américains parce que finalement, on voit quand même que même si Meta a souffert, eh bien on voit quand même que les résultats sont bons. Même chose chez Microsoft, même chose chez Google. Comme je vous le disais avant, la seule chose qui pêche un petit peu aux États-Unis, c'est le fait que visiblement, il y a une concentration des richesses et une concentration des bonnes performances qui se limite à certains titres. Regardez le semi-conducteur index, là aussi on voit qu'on a été extrêmement violent, on n'est pas allé chercher la moyenne mobile des 200 jours sur le SOX, j'aurais presque préféré qu'on le fasse, histoire d'aller vraiment purger les choses, mais on est bien remonté. Alors là, le rebond du semi-conducteur index, il est principalement dû à Nvidia, qui a littéralement explosé depuis deux séances. Hein. Vous voyez qu'on on souffrait autour des 784, elle a repris $100 en deux séances. Donc ça, forcément, ça a beaucoup, beaucoup aidé l'indice. Souvenez-vous du bain de sang sur SMCI l'autre jour, on a été chercher 662 au plus bas, on est remonté à 857. La seule qui finalement a de la peine à remonter, mais qui sera peut-être la prochaine à surveiller lors des prochaines publications, c'est peut-être AMD qui reste toujours collé en bas et qui bénéficie quand même de pas mal de commentaires positifs, mais qui ne veut pas redémarrer. Enfin, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que pour l'instant, les semi-conducteurs ont bien rebondi et c'est ce qui nous permet de rester un petit peu optimistes, même si la photo globale peut suggérer et peut nous amener à nous poser pas mal de questions quand même. Petit tour par les matières premières. Alors, le pétrole toujours dans haute tendance haussière. Vous voyez que la moyenne mobile sur le baril a très très bien tenu pour l'instant et que gentiment, on va aller rechercher les 88$ probablement au haut de ce range. Et puis après, il faudra aller donc de nouveau chercher les 90$, mais je reste de plus en plus convaincu que ça va se produire dans pas longtemps. Donc attention sur le pétrole. Là aussi, quand on parle beaucoup d'inflation, même si ça fait pas partie du core CPI l'énergie, parce que c'est pas important l'énergie, eh bien le pétrole est extrêmement fort et a quand même des conséquences sur notre vie à nous tous tous les jours, chaque fois qu'on fait le plein d'essence. L'or, c'est un petit peu le coup sûr de cette saison, de ce début d'année. L'un dans l'autre, vous voyez que l'or est à 2337$ pour l'instant. On est en repli par rapport au plus haut historique, mais quand vous lisez et vous écoutez les commentaires des experts en finance, il est clair que ça va au minimum à 2500 et puis facilement à 3000. C'est un petit peu les mêmes théories qu'on avait sur le Bitcoin. Mais en tout cas, c'est vrai que l'or est relativement solide. À chaque nouvelle un peu géopolitique, on fait croire que c'est un truc super important. Mais on voit aussi que, et on entend surtout beaucoup parler d'achats massifs au niveau de l'or de la part de certains gouvernements, entre autres la Chine. Et puis le Bitcoin. Alors, on nous a beaucoup vendu le halving du Bitcoin comme étant un signal méga important parce que tout d'un coup, l'offre, elle a diminué. Que vous dire de ça? Franchement, le graphique n'est pas top. Hein. Chaque fois, on fait, si vous regardez, on fait chaque fois un nouveau plus haut, mais enfin, les plus hauts, ils sont chaque fois, on fait un plus haut, mais moins haut que le précédent, donc on est vraiment en train de faire plutôt un truc qui descend, une tendance vraiment baissière. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, tout le monde est super convaincu que ce machin va exploser. Et bah, pour l'instant, bah, il est extrêmement faible quand même. Et chaque fois qu'on a des corrections, ça rebondit deux jours après, mais chaque fois moins haut. Et puis finalement, on redescend pour rechercher la nouvelle correction. Il y a un nouveau truc qui se produit. Là, comme ça, je suis pas super emballé par le graphique uniquement du Bitcoin en ce qui me concerne. C'est pas des trucs qui me plaisent énormément. Je serais pas non plus surpris qu'on ait recherché des plus bas et faire peur à tout le monde avant peut-être de redémarrer. Mais en tout cas, ce qui est assez impressionnant toujours, et quand on regarde les nouvelles qui ont été publiées et écrites et les rapports qui sont publiés, je crois qu'il y a encore Standard Chartered qui en parlait cette semaine, pour eux, le Bitcoin va à 150 000$. Il n'y a pas de question à se poser. C'est encore un coup sûr dans les marchés financiers. Et comme on sait, les coups sûrs, ça marche toujours super bien. On attaque avec les vedettes de la semaine. Alors cette semaine, on est droit aux chiffres de Novartis, de Roche, de Nestlé. Alors on va essayer de faire relativement simple. Là aussi, Novartis, les chiffres ont été relativement bien pris par le marché et elle s'en sortait pas mal. Du autre côté, Roche, comme d'habitude, c'est un peu décevant et on trouve qu'il n'y a rien de très dynamique pour l'instant. Alors qu'on entend vraiment, on attend vraiment un signe, un retour du dynamisme du côté de Roche. Pour l'instant, c'est très mou et très difficile. Comme on l'a vu sur les performances tout à l'heure, Roche termine l'un dans l'autre, au milieu de nulle part. Et puis Nestlé termine en baisse parce que finalement la croissance, c'est pas ce qu'on attendait. Ils ont des casseroles dans tous les coins. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on leur colle un truc sur de l'eau qui est pas propre, des gâteaux qui sont pas sains, des pizzas qui sont pourries. Enfin bref, c'est assez complexe pour Nestlé pour l'instant. Donc de nouveau, ça représente bien l'image du SMI quand vous avez ces trois gros poids lourds qui ne foutent pas grand-chose ensemble. En tout cas, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble pour que finalement on puisse avoir un SMI qui redémarre. Mais tant que Nestlé est au fond de la cave, que Roche, plus personne n'en veut, et que Novartis, c'est un peu le seul qui surnage avec les rames pour l'instant, eh bien, ça reste un petit peu pénible pour les sociétés. Mais néanmoins, sur les résultats, eh bien, voilà, c'était sur trois publications, il y avait du bon, du moyen et du moins bon. Et puis, le bon, c'était Novartis, le moyen, c'était Roche, et le moins bon, c'était Nestlé. Vous le voyez, Novartis, alors, je vais pas vous le refaire encore une fois, hein, mais le coût du range, ça marche plutôt pas mal. Hein. Sur les 83 et des poussières, ben, fallait acheter. Et puis maintenant, on arrive gentiment dans la zone du haut du range. Alors, de nouveau, déterminer le haut du range, hein, c'est à vous de voir. Mais est-ce qu'on a été juste comblé le gap? Vous voyez ici qu'on a quand même laissé un gap là à l'époque en descendant et qu'on est allé, on est en train, je ne sais pas si on l'a comblé, mais en tous les cas, on n'est pas loin, on n'est pas loin de le faire. Et voilà, donc Novartis fonctionne toujours bien dans son range. Cherchez pas plus loin pour l'instant. Il n'y a pas de nouvelles suffisamment spectaculaires qui laissent supposer que Novartis pourrait aller traiter ailleurs que là où elle se trouve aujourd'hui. Donc continuez à prendre les profits au-dessus des 89,90 francs suisses et rachetez sur les 84,83 pour l'instant. C'est le maître mot et c'est la seule chose que j'ai envie de dire sur Novartis. Roche, c'est la dépression totale. Alors, les chiffres, comme je vous l'ai dit, bof, 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 pas de signe de dynamisme pour l'instant. Chaque fois qu'on a l'impression qu'on fait un plus bas, on est capable d'en faire un nouveau plus bas derrière. Pour l'instant, et si on veut se raccrocher à l'espoir que j'ai toujours de me dire qu'un jour les choses changeront sur Roche, eh bien, j'ai quand même le sentiment qu'on est en train d'essayer de constituer quelque chose. Pour l'instant, c'est vrai que les chiffres sont pas extraordinaires et ne montrent pas non plus un dynamisme exacerbé chez Roche, mais néanmoins, j'espère qu'on arrivera à tenir cette zone-là pour ne pas aller encore une fois faire une marche un peu plus basse. Mais pour l'instant, quand on observe les moyennes mobiles, la tendance elle est descendante. Il y a rien à attendre. Vous voyez que les trends sont descendants aussi. Par contre, alors, si on cherche un petit peu, si on cherche un petit peu la thématique des biseaux, eh bien, vous voyez quand même que là, Roche, gentiment, a essayé de tirer quelque chose qui ressemble à quelque chose, mis à part les excès de ce côté-là. Alors, j'arrive même pas à vous tirer un biseau correct là-dedans, mais admettons qu'on ait une tendance comme ça. Et puis, de l'autre côté, on va aller chercher quelque chose comme ça. L'un dans l'autre, ça laisse quand même supposer qu'à un moment donné, on va avoir un rebond et un redémarrage dans l'autre sens. Mais pour l'instant, on va surveiller, trouver des points d'entrée. Vous dire qu'il faut acheter maintenant sur faiblesse, c'est un peu difficile à dire parce que ça fait un moment que je pensais qu'il fallait déjà racheter. Mais je veux croire qu'à un moment donné, on va avoir une sorte d'inversion sur le bon Roche. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a qu'à surveiller. Nestlé, vous voyez que l'un dans l'autre, elle s'en sort encore pas mal sur la semaine, mais on a tenté le rebond après la publication des résultats. Mais là aussi, déception sur déception, rebond technique sur Nestlé, parce que finalement, les gens se disent « Oui, mais quand même, à ce niveau-là, c'est pas cher. » Mais à chaque fois, on se dit que c'est pas cher. Et puis là, vraiment, le rebond de Nestlé, c'était aussi dû au rebond qu'on a eu en fin de semaine sur les marchés financiers. Et je crois pas que le rebond qui a été induit aux États-Unis par les bonnes performances de Microsoft ou de Google ait un quelconque rapport avec Nestlé. Autrement, on notera que Phoenix Mecano a un bénéfice net en chute libre, et que chez Ublox, on a le chiffre d'affaires qui a chuté de moitié, et la société est entrée dans le rouge au premier trimestre. Mais par contre, il prévoit une reprise séquentielle au cours des prochains trimestres, donc tout n'est pas perdu. Il faut noter aussi que Remonde Energy a publié des chiffres assez impressionnants et assez fantastiques, on va dire. Bon, c'est pas grave, c'est nous qui paye. Bénéfice de plus de 40 millions, dividendes en augmentation, tout va bien du côté de Remonde Energy. Toujours un peu la même chose, hein. Le prix de l'électricité a baissé. Ah bon, moi je l'ai pas constaté. Et j'ai envie de dire à la fin, c'est pas grave, de toute façon, c'est nous qui paye pour Remonde Energy. Petit détour par UBS. Alors UBS a eu son assemblée générale cette semaine. Grosso modo, vous avez pas mal de gens qui sont allés là-bas pour dire c'est pas normal le salaire de monsieur Hermotti, c'est un scandale. Grosso modo, je crois que si on part du principe que le mec il bosse 80 heures par semaine, je crois qu'il se fait 6000 balles de l'heure. Donc c'est vrai que ça fait pas mal quand même, mais donc on a un peu tapé sur la table pour dire oui, c'est pas normal. Bon, à la fin, il va quand même les toucher, donc ça va rien changer. Et puis l'un dans l'autre, eh bien les actionnaires ont quand même accepté de toucher un dividende en augmentation, je crois que c'est 70 centimes par action. Donc assemblée générale, j'ai envie de dire sans gros soucis, même si le titre a un petit peu souffert, parce que surtout on a entendu des commentaires de la part de la direction générale qui s'inquiétaient un tout petit peu des nouvelles réglementations trop strictes qui pourraient empêcher le développement de la banque. Oui, bon, en même temps, mettre des réglementations sur les banques, vu ce qu'ils nous ont fait ces dernières années, on peut pas non plus en vouloir aux autorités d'essayer de les contenir un peu, puis pas les laisser partir dans tous les sens, mais visiblement, ça a été un petit peu moins bien apprécié, ces nouvelles réglementations. Mais l'un dans l'autre, rien de spécial, le titre était légèrement en baisse sur UBS cette semaine. Peut-être que c'est l'occasion de la racheter, parce que finalement, c'est la seule grosse banque en Suisse, elle finit toujours par remonter. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est un peu le cycle permanent. Vous voyez le graphique de Curos. Alors Curos, la biotechnologie suisse qui a plus que doublé son chiffre d'affaires ce dernier trimestre. Sur l'annonce, le titre a perdu un wagon. Vous voyez que sur l'annonce, on est passé de 8 à 6,88, mais l'un dans l'autre, plutôt des commentaires positifs qui visiblement étaient soit dans les prix ou alors décevants pour les investisseurs bien informés sur Curos. Temenos qui vient de nous annoncer l'arrivée d'un nouveau directeur général. Ça fait un moment qu'on l'attendait. Souvenez-vous aussi que Temenos, la semaine dernière, avait annoncé qu'ils avaient mis une commission d'enquête, qu'ils avaient déclaré que ce qu'avait annoncé Hindenburg Research était mauvais. Ça a permis au titre de remonter. Et ben là, on est retour à la case départ. On est sur les plus bas de nouveau. Franchement, je ne saurais trop vous recommander pour l'instant de ne pas trop vous intéresser à Temenos, même s'il y a un nouveau patron qui est arrivé. On espère qu'il pourra renverser la tendance. Mais pour l'instant, franchement, mis à part avoir une sale gueule de chez sale gueule, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Et puis, on terminera ce Swiss Bliss avec Swisscom. Swisscom qui a annoncé cette semaine qu'ils se sont pris une amende de 18 millions de francs suisses pour avoir... on va dire, ne pas été très fair avec les autres opérateurs de fibres en Suisse. C'était attendu depuis longtemps. Voilà, sur l'annonce, le titre a un petit peu baissé. Et puis, finalement, on n'est pas plus avancé qu'avant. Après, là aussi, un rebond assez spectaculaire. On revient de nouveau à la case départ. Alors, peut-être qu'on va rechercher les niveaux de cassure de l'époque, de ce grand biseau qu'on avait à l'époque, sur les 487. Et que là, on pourra peut-être se repositionner à la hausse. Mais le plus drôle qu'il y a à retenir chez Swisscom, c'est qu'ils se sont pris une amende de 18 millions d'euros parce qu'ils n'ont pas été fair. Et dans la foulée, ils ont annoncé que les gens qui avaient plusieurs adresses Bluewin à leur nom vont commencer à payer les adresses supplémentaires. Parce que forcément, il faut qu'ils couvrent leurs coûts. Alors c'est un peu sympa. C'est évidemment, ça n'a rien à voir, mais ça me fait toujours rigoler parce qu'on a vraiment l'impression que les gars, ils se sont pris 18 millions d'amende. Donc il faut aller chercher du pognon ailleurs pour essayer de compenser l'amende, parce que finalement tous ces gens qui utilisent des adresses e-mail qui ne payent pas, c'est quand même un scandale, alors qu'il y a quand même pas mal de sociétés dans le monde qui offrent des e-mails gratos sans autre forme de procès, ce qui n'est pas tout à fait le cas de chez Swisscom. Mais bon, c'est Swisscom, on connaît toujours leur manière de fonctionner. Il n'y a qu'à regarder vos factures de téléphone, voir combien ça vous coûte pour ce que vous avez comme service derrière. Bref, ceci dit, on n'est pas là pour faire de la polémique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché est un peu au milieu de nulle part quand même. On a retrouvé notre phase d'optimisme en toute fin de semaine. Merci Microsoft et merci Google. La semaine qui nous attend sera extrêmement chargée en termes de résultats, puisqu'entre autres, on aura des boîtes comme Apple, bien sûr, Amazon également. Donc ce sera bien évidemment le point d'orgue de la semaine. On attend beaucoup d'Apple qui probablement va nous annoncer plein de conférences de presse. On s'attend à pas mal de publications et de nouvelles annonces d'Apple au-delà de leurs résultats pendant les prochaines semaines. Mais pour l'instant, il faudra voir comment ça s'est passé le dernier trimestre. Apple a beaucoup souffert des ventes en Chine, donc il y a aussi pas mal de choses à surveiller là-dessus. Voilà, vous voyez la liste des sociétés qui vont publier cette semaine. Donc on retiendra, donc je vous l'ai dit, Amazon et Apple. Donc Amazon, ce sera mardi soir after close. Apple, ce sera jeudi soir after close. Mais au milieu de tout ça, vous aurez quand même des Lilly, des 3M, des McDo, des Coca, des AMD, des Supermicro, bien sûr. Supermicro, ce sera très intéressant à surveiller. Nous aurons également du Pfizer, du Qualcomm, du CVS Health, du Mastercard, et j'en oublie certainement au passage, mais aussi du Coinbase, du Peloton, du Block, bref, de l'Amgen, entre autres. Et puis, on terminera la semaine avec pas grand-chose, mais en tout cas, jusqu'à jeudi soir, ça risque d'être chaud patate. Notez aussi également Novo Nordisk qui publiera également jeudi matin du côté de la Norvège. Donc là aussi, vu la performance de ce genre de titre, ce sera toujours assez intéressant à surveiller. Bref, la semaine sera bien chargée. Au niveau des chiffres économiques, pour l'instant, on a le gros qui est sorti. Donc on va se concentrer sur les non-farm payrolls qui sortiront la semaine prochaine pour voir où on est de nouveau au chiffre de l'emploi. Ça va revenir sur les mêmes thématiques. Puis après, on aura le CPI, puis le PPI. Ouais, vous connaissez l'histoire. Pour l'instant, on a l'impression quand même que, comme je vous le disais en ouverture, les gens ont commencé à se dire, de toute façon, les taux aux États-Unis, faut oublier, Dans le meilleur des cas, on en reparlera cet automne. Et puis en Europe, eh bien, a priori, c'est plutôt certain, de plus en plus certain, qu'en juin, ils vont baisser les taux. Meilleur comportement de l'inflation en Europe qu'aux États-Unis. Et pour le reste, eh bien, on voit quand même que l'économie semble avoir donné, en tout cas, quelques signes de faiblesse à confirmer. Et surtout, on va continuer à observer avec beaucoup d'attention. Et surtout, les commentaires qui seront faits après par les sociétés. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, voilà, passez une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live avec la saison des ponts du mois de mai qui va commencer. Donc on va avoir l'occasion d'avoir beaucoup de coupures au cours de ces prochaines semaines. Néanmoins, lundi matin, comme d'habitude, même endroit, même heure. Profitez bien du soleil qui semble pour l'instant être de retour. À tout bientôt. Bonne journée. Bye bye.